C'est un sefer différent essentiellement du sefer Vayikra. Le sefer Vayikra, c'était un sefer de mitzvot. Et le sefer Bamidbar, comme le sefer Shemot, c'est un sefer où on nous raconte l'histoire des Bnei Israël, l'avancée des Bnei Israël entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. Et dans le cadre, en même temps que ce récit, on nous donne des mitzvot. Dans le Sefer Vayikra, il n'y avait pas de récit, il n'y avait que des mitzvot. Donc ici, c'est vraiment un livre avec récit des pérégrinations des Bnei Israël. Ça va jusqu'à la fin, puisque le Sefer Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Donc, on va aller jusqu'à la fin des pérégrinations des Bnei Israël. Ce Sefer, il a plusieurs noms. En français, on l'appelle le livre des nombres, à cause du dénombrement par lequel ce Sefer commence, d'ailleurs. On l'appelle aussi tout court Sefer Bamidbar, à cause du premier mot significatif ici. Mais effectivement, en plus, c'est vraiment le récit des tribulations des Bnei Israël, Bamidbar, justement, dans les différents déserts, d'ailleurs. Et puis, on l'appelle aussi Chumash HaPkudim, c'est-à-dire c'est le Chumash des modèles, c'est-à-dire des tâches qui sont données à chacun, où chacun doit faire ce qu'il a, jouer son rôle. Et on va voir des rôles, toutes sortes de rôles anciens, de rôles nouveaux, dont on va nous dire un peu comment ils sont arrivés et ce que c'est. Si maintenant on doit donner peut-être un qualificatif de ce Sefer Bamidbar, il faut dire que c'est le récit d'un épouvantable échec des Bnei Israël. Épouvantable échec d'un voyage qui aurait dû durer 11 jours et qui a duré 40 ans. Qui a duré ces 40 ans pour de mauvaises raisons, de très mauvaises raisons. Et durant ces 40 ans qui ont malheureusement mérité, durant ces 40 ans, il va se passer quelque chose d'absolument énorme. Si vous voulez, on peut prendre, vous voyez bien que dans les premiers psukim du Sefer Bamidbar, il y a un dénombrement des Bnei Israël. Et si vous allez dans le chapitre 26 du Sefer Bamidbar, dans le chapitre 26, vous aurez effectivement un deuxième dénombrement, un peu du même style que celui-là, par tribu, par famille, etc. Et le total des deux dénombrements, c'est presque le même nombre de personnes. Et donc, on a l'impression qu'il y a une continuité quasiment. Il y avait un clan Israël avec 600 000 nefachot, essentiellement, et il y a toujours 600 000 nefachot. La vérité, c'est que dans le deuxième dénombrement, il n'y a aucune personne qui était dans le premier dénombrement, sauf deux personnes, Kolev et Yoshua. Mais autrement, tous les adultes, c'était un dénombrement, dans Bamidbar, c'est un dénombrement d'adultes. D'adultes, ça veut dire des adultes qui ont vécu la sortie d'Égypte et Matan Torah en tant qu'adultes. Tous ces gens-là vont mourir dans le désert. Dans ces pérégrinations de 40 ans, Aucun ne va survivre, sauf Caleb et Joshua, les deux explorateurs qui n'ont pas marché dans le complot des 10 autres. Ni Moshe ni Aaron ne vont entrer, mais pas pour les mêmes raisons, mais eux non plus ils n'entreront pas. Ils sont pas, ils vont pas non plus entrer en Eretz Israël. Alors, puisqu'on est un chiour de femmes, je dois dire que les femmes ne sont pas touchées par, enfin, elles sont pas directement tuées comme les hommes. Les femmes ne sont pas tuées parce que elles n'ont pas participé au veau d'or. Comme vous savez, au veau d'or, quand Aaron a réclamé, il a dit qu'on lui donne de l'or, il a pensé qu'il allait gagner du temps. Il n'a pas gagné du temps parce que les hommes ont arraché aux femmes qui ne voulaient pas le donner. Les hommes ont arraché l'or des femmes. Leurs bijoux, ils les ont arrachés. Donc les femmes n'ont pas été touchées par le décret de mort sur cette génération. Qui? Il n'y a personne chez moi. Oui, bon, mais. Quoi? Non, mais il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir de. Qui c'est? Ne la vois pas. Ah, si, attends un instant. Elle est sous le carré, elle est sous le carré blanc. Ouais, elle est là. Ok, d'accord. Donc, c'est pas elle qui était dans la salle d'attente maintenant. Donc ça, c'est quelques éléments, si vous voulez, sur ce sefer là dont on va commencer la lecture et l'étude. Alors, comme ça commence par un dénombrement, vous vous souvenez déjà, on sait que, en dos, si on peut le dire comme ça, la Torah, elle est contre les dénombrements. Et pourtant, on n'arrête pas d'en faire. Alors ici, la question se pose, pourquoi on fait ce dénombrement? On sait exactement où on en est. Alors Rashi répond à la question. Mitoch chibatam lefanav, moné otam kol shaar. Il les compte à tout moment parce qu'il les aime. Il les a comptés quand ils sont sortis d'Égypte. Après le Hegel, il les a comptés pour savoir quels étaient les survivants. Maintenant qu'il va veiller à ce qu'il y ait la présence divine parmi eux, il les compte. Be'echad be'nissan. Ukama Mishkan, Ubechad Be'iyar Menahem. Donc voilà, le premier Nissan, le Mishkan a été érigé, et le premier Iyar, il les a comptés. Donc voilà, on connaît ce. D'où est-ce qu'on sait? C'est écrit dans la Torah ici, oui. Vaïdaber Hashem el Moshe, le Midbar Sinai, Be'ohel Moed, Be'echad la Chodesh, Hasheni, Bashana Hashenit, le Tsetam, Me'eretz Mitzrayim, les morts. Les Israël sont sortis d'Égypte, comme vous savez, en Nissan. Et la deuxième année, le deuxième jour, pardon, le deuxième mois de la deuxième année, Hachem donne à Moshe l'ordre ici. Il lui parle. Tout le monde est dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Mais il y a le Mishkan. On a vu, le Mishkan a été érigé il y a un mois. Et donc, Hachem parle désormais à Moshe Rabbeinu à partir des Kruvim. Vous vous souvenez, la voix, elle sort entre les Kruvim, entre les chérubins qu'il y a sur le couvercle du Aaron HaKodesh. C'est de là que semble venir la voix que Moshe entend. Et c'est une voix, on pourrait penser que c'est une voix discrète. Chazal vont dire que Hachem, quand il parle avec Moshe, il parle aussi fort que quand il parlait au Sinaï. Mais personne n'entend rien sauf Moshe. Et on n'entend rien non plus en dehors du Mishkan. On va avoir une situation où Hachem va parler à Moshe en présence de Aaron. Moshe va entendre et Aaron va rien entendre. Donc Hachem parle à Moshe Rabbeinu et lui dit: Sehu et Rosh Kol Adat Bnei Israël, le Mishpechotam, le Vetavotam, le Mispar Shemot Kol Zachar le Gulgulotam. Ibn Esrim Shana Vamala, Kol Yotze Tzava Bnei Israël, Tifkedu Otam, le Tzivotam, Ata Ve'aaron. C'est-à-dire, comment va se faire ce dénombrement? C'est toi et Aaron qui allez le faire. Et puis, avec vous, il y aura Ish-Ish le Maté, Ish-Rosh le Vetavotav, vous. Il y aura aussi quelqu'un de la tribu. Ça veut dire que chacun va passer. On a du mal à s'imaginer ce que ça va être, oui. Ils vont passer devant Moshe et Aaron. Et a priori, Moshe ou Aaron, ou les deux, vont leur dire un mot gentil, ou ils vont leur demander comment ils s'appellent, comment va la famille, etc. Bon, ça doit prendre un certain temps, ils sont 600 000. Et comme on a peur qu'ils soient trop impressionnés de se retrouver devant Moshe et Aaron, alors, pour les rassurer, il y aura quelqu'un de leur tribu à côté de Moshe et Aaron. Comme ça, ils seront un peu à la maison et ils ne seront pas effrayés. Ils vont pouvoir ouvrir la bouche, le cas échéant, si Moshe Rabbeinu ou Aaron lui parlent leurs parents. Alors, c'est intéressant de regarder l'ordre a été donné de les compter le Mishpechotam, littéralement selon leur famille. Et Rashi dit, Da minyan kol shevet ou shevet. C'est-à-dire, les compter par famille, a priori, c'est plus fin que comme des comptes, que de les compter par tribu. Mais les compter par famille, c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir combien il y a de personnes par tribu. Et on va les compter le Vetavotam, Rachid dit, parce que si il y a un mariage mixte, c'est-à-dire le père d'une tribu appartient à une tribu, la mère à une autre tribu, ils seront comptés comme appartenant à la tribu du père. Le Gulgulotam, par tête de pipe, en fait, Aliede Shkalim Bekala Gulgolet. On ne va pas compter les gens, n'est-ce pas? On ne compte pas les gens parce que vous savez bien que la Torah ne veut pas qu'on compte les gens. Alors qu'est-ce qu'on va compter? Ben, chacun va apporter Beka, c'est-à-dire une certaine monnaie. Donc un certain poids d'argent, Et ensuite, on va compter, on va peser le poids d'argent et on saura combien de personnes on a. Et maintenant, qui est-ce qui va être décompté? Kol yotze tzava, magid shen yotze betzava pachot mi ben esrim. Donc on voit là-bas, c'est les gens qui sont mobilisables et n'étaient mobilisables que les gens à partir de 20 ans. Voilà, donc voilà comment ça va se passer. Et alors, il y a la Torah nous raconte combien il y avait de personnes dans chaque tribu. Donc, ce dénombrement-là, c'est un dénombrement qui, au moment où il est fait pour savoir combien de personnes il y a dans chacune des tribus qui vont entrer en Eretz Israël. D'accord? Le voyage aura duré en tout et pour tout 11 jours, normalement. Il aurait dû ne durer qu'11 jours. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des chefs de tribu? Alors on a déjà dit quelques mots, mais le Sforno dit que c'est parce que le chef de la tribu, il connaît au mieux, c'est lui qui sait vraiment bien quelle famille, qui est le chef de la famille, etc. S'il y a des problèmes, il va pouvoir répondre. Et puis, l'idée, c'est que le Malbim dit que les Bnei Israël, quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont devoir faire la guerre. Alors, je ne suis pas sûr que ça. La guerre qui a été faite, elle a été faite après les 40 ans. Est-ce que quand les Bnei Israël sont. Si les Bnei Israël étaient entrés directement en Eretz Israël, peut-être qu'il y aura eu quelque chose qui s'appellera la guerre, mais peut-être que ce n'est pas une guerre qui allait durer 7 ans, comme ça a été le cas au temps de Joshua. Quand le Malbim dit qu'on a besoin de savoir combien il y a de personnes dans les tribus, parce que il faut s'arranger pour préparer à la guerre, le cas échéant, et puis ensuite, pour se préparer pour le partage de la terre d'Israël entre les différentes tribus. On va pas donner un territoire très grand à une tribu qui comporte peu de monde et un petit territoire à une tribu où ils sont très nombreux. Donc c'est important de savoir pour le partage de la terre la structure de chacune des tribus. Pardon?
Le partage, la chaîne qui
Hachem va dire qu'on fait le partage, les Bnei Israël, ça prend 7 ans pour partager. Si c'était Hachem qui faisait le partage. Non. Magnifique là parce que ça permet une fois qu'ils veulent bien devenir bleu.
Pour le partage de l'État, il n'y avait pas.
Pour
Pour la terre de terre, il n'y avait pas, pour le cheval, il n'y avait pas de l'oral.
Il y avait pour le... Mais c'est très compliqué parce qu'il y avait tout. Il y avait un espèce de tirage au sort, il y avait une répartition en fonction de la grandeur des tribus. Peut-être on tirait au sort où sera la tribu, est-ce qu'elle sera au bord de la mer, etc. Et après, il fallait savoir est-ce qu'ils étaient comment étaient d'accord. Est-ce que d'être au bord de la mer pour la tribu de Zvouloun, qui sont des navigateurs, c'était très bien. Mais bon, pour une autre tribu, peut-être qu'ils n'étaient pas pressés d'être au bord de la mer. Ils préféraient être dans le côté des montagnes de Yehuda, ou je ne sais pas. Il y avait tout à la fois, en fait. Bien. Alors, il y a une singularité ici dans ce recensement par rapport au recensement du Sefer Shemot. C'est en tout cas, c'est que ici, les Lévites ne sont pas comptés avec les autres. D'accord? Les Lévites sont comptés à part. Et ensuite, au deuxième chapitre, à la troisième montée en réalité, Hachem parle à Moshe et à Aaron et il leur dit, Ish al diglo veotot levet avotam yachanu bnei Israël, mineged saviv lo'el moed yachanu. Alors, Hachem a dit à Moshe et à Aaron que les Bnei Israël vont camper. Bon, les Bnei Israël sont dans le désert, donc ils vont aller quand ils s'arrêtent, ils campent. Et bon, comment ils sont organisés? Ils sont organisés autour du Mishkan. Le Mishkan est au centre. Les Bnei Israël sont organisés autour du Mishkan. Et ils sont organisés en 4 x 3. C'est-à-dire trois tribus à l'est, trois tribus au sud, trois tribus à l'ouest et trois tribus au nord. Maintenant, ici on nous parle Ish al Diglo. Chaque homme, sous sa bannière, sous son drapeau. Donc, en fait, c'est pas que chacun aura son drapeau. Ici, Rashi explique que Shlosha Shvatim le Chol Degel. C'est-à-dire, dans les trois tribus, je vous ai dit qu'il y avait trois tribus dans chaque point cardinal. Eh bien, chaque groupe de trois tribus aura un drapeau spécifique. Ce drapeau spécifique, il sera le drapeau de la tribu principale dans le groupe des trois. Dans le groupe des trois tribus, vous avez une tribu centrale flanquée à gauche et à droite de deux autres tribus. Et donc, on va voir dans la suite énumérer les quatre tribus principales. Et puis, en fait, c'est pas que les autres tribus n'avaient pas de drapeau ou de bannière. Il y a un midrash qui donne le drapeau de chaque tribu. Le midrash dit que le drapeau de Réhouven était un drapeau avec un fond rouge Et sur ce fond rouge, il y avait les Doudaïm. Les Doudaïm, vous vous souvenez, ce sont les fameuses mandragores que Reuven avait trouvées et qu'il avait amenées à sa mère, Léa. Les mandragores, ou les fleurs en question, étaient considérées comme favorisant la fertilité. Et donc, il y a eu une discussion. Rachel a demandé à Léa, Léa qui avait des enfants, Rachel qui n'en avait pas, Rachel a demandé à Léa de lui donner les ou des doudaïm que Rouven avait ramené à sa mère. Il y a eu une discussion pas très sympa. Et finalement, Rachel a en quelque sorte acheté des doudaïm à Léa. Elle lui a dit, en fait, ce soir, normalement, Yaakov devait passer la nuit chez moi. Il va la passer chez toi et toi, tu vas me donner les mandragores. Dans l'hypothèse où il s'agit de favoriser la naissance, enfin, la grossesse éventuelle d'une femme, on voit pas très bien pourquoi, cet échange-là, il n'est pas très logique, en fait. Donc ça, c'est le drapeau de Reuven. Le drapeau de Shimon, il est vert et il a une broderie qui représente la ville de Shechem, qui est la ville que Shimon, avec Lévi, ont massacré après l'histoire de Dina. Bon, c'est intéressant que Yaakov Avinu, quand il parle de Shimon et de Lévi par rapport au massacre de la ville de Shechem, Yaakov Avinu, il n'est pas très élogieux pour il dit, je veux rien avoir à faire avec ces assassins quasiment. Et curieusement, ça devient l'emblème de la tribu de Shimon. Même en soi, c'est quand même étonnant. C'est vrai que ça manifeste combien Shimon était un bon frère pour sa sœur, parce que comme ça, ce titre-là, ils ont massacré Shechem, ce qui avait été fait à sa sœur. Mais de là à mettre ça sur son étendard, sur son drapeau, c'est quand même un peu étonnant. Et celui de Lévi, lui, il pourrait aussi avoir, donc, si c'est comme ça, il pourrait aussi avoir un remez, une allusion à Shechem. Mais lui, le drapeau de Lévi, il est blanc, noir et rouge. Alors, c'est. Et il y avait en fait une représentation des Ourim et Thummim, c'est-à-dire d'une partie des vêtements du Kohen Gadol. Celui de Yehuda, il était bleu ciel et il y avait un lion. Dans les brachot de Yaakov, Yaakov a pris l'image des lions, des lionceaux, là, pour Yehuda. Et c'est d'ailleurs assez curieux, mais c'est ce qui est resté quasiment. Vous avez sur un nombre incalculable de rideaux, ces rideaux qu'on met devant le Aron HaKodesh dans les synagogues, où il y a un ou deux lions qui sont représentés. Celui d'Issachar était bleu marine avec un soleil et une lune, parce que Yaakov disait qu'il y avait là-bas des sages qui étaient capables de calculer les orbites des planètes, des corps célestes, pour établir le calendrier. Celui de Zvouloun était blanc et avec un petit navire. celui d'Issachar, blanc. Blanc avec un navire. Non, pardon. Celui d'Issachar est bleu marine, je vous dis. Bleu marine, c'est-à-dire la nuit, quoi. Bleu marine avec un soleil et une lune. Zvouloun, c'était blanc avec un navire. Dan, bleu saphir avec un serpent. Ça fait référence au brachot de Yaakov. Gad, gris. Et Gdoud, il avait un bataillon. Naphtali, c'est rouge pâle. Et le dessin d'une gazelle, ce que tout le monde connaît parce que c'était l'emblème de la poste en Israël. Au temps où on essayait de faire croire aux gens que la poste était rapide. Celui d'Acher, il avait la couleur de l'huile d'olive et un olivier. Et les deux drapeaux des fils de Yosef, Ephraïm et Ménaché, étaient sur un fond noir. Puis d'Ephraïm, sur celui d'Ephraïm, il y avait un taureau. Et sur celui de Ménaché, il y avait un Réhem. Réhem, c'est un animal mythique. Et enfin, celui de Binyamin, c'est un mélange de toutes les autres couleurs. Avec évidemment le dessin d'un loup. Zeev. Pardon? Gdoud, un bataillon. Pardon? Bleu saphir avec un serpent. En plus, sur les... Alors, il y avait, ça, on a tous les drapeaux de toutes les tribus, mais visiblement, il y avait un drapeau. Pour le groupe de trois tribus autour de Yehuda, c'était le drapeau de Yehuda. Et les trois tribus autour d'Éphraïm, c'était le drapeau d'Éphraïm, etc. Et en plus de ça, sur ces drapeaux, sur les quatre drapeaux principaux, là, il y avait des lettres. Et les lettres, l'ensemble des lettres, c'était l'ensemble des lettres des Avot. C'est une façon de faire allusion au mérite des patriarches des Avot. Bon, les Bnei Israël, effectivement, campaient autour du Mishkan. Alors, il y avait une certaine distance entre le Mishkan et les premières tentes, évidemment. Et évidemment, la distance, c'était une distance marchable à marchable pendant Shabbat. C'est-à-dire on ne pouvait pas se déplacer comme de plus que 2 000, comme on dit. Et c'était enfin, 2 000 amot, directement. 2 000 amot. Et donc, il devait y avoir une certaine continuité pour qu'on puisse aller du camp des Bnei Israël jusqu'au Mishkan. Parce que il fallait pouvoir aller prier au Mishkan, Shabbat, et écouter les enseignements de Moshe et d'Aaron qui parlaient à partir du Mishkan. Et donc, on nous décrit comment étaient composés justement les trois, enfin les quatre groupes de trois. Il y avait donc Yehuda avec Issachar et Zvouloun. Il y avait Reuven avec Gad et aussi qui c'est l'autre là? Gad. Et Shimon et Gad. Et donc, on a dit comment les Bnei Israël campaient. Mais quand ils se déplaçaient, ils se déplaçaient aussi dans un certain ordre. Il fallait ouvrir le cercle, en quelque sorte. Il y avait donc deux tribus, le Mishkan et deux autres tribus qui fermaient la marche. Donc, il y avait les deux premières tribus, Yehuda et Reuven. Le Mishkan, et après Ephraïm, avec de part et d'autre, Menaché d'un côté et Binyamin. Ça veut dire que le côté Ephraïm, c'était entièrement un côté Yosef. Bon, puisqu'il y avait Menaché et Binyamin. Du côté Rachel, si vous voulez. Donc, il y a déjà, hein, quand même, on n'a pas cherché à mélanger, quoi. On a mis ensemble les fils de Rachel. C'est-à-dire Yosef et Binyamin, et Yosef sous la forme de ces deux tribus. Et après, il y a Dan, qui est le dernier. Et Dan était entouré de Asher et Naphtali. Pardon? Oui. Et alors, la Torah remarque ici que alors, ils sont Shesh Meot Elef, Shloshet Alafim, Chamesh Meot Vechamishim. Donc, ils sont 605 560. Non, pas. Si, non. 603 000, pardon. 603 550. Et les Alvim n'ont pas été comptés dans ces gens-là, comme Hachem l'avait ordonné à Moshe. Et puis ensuite vient l'énumération Toldot Aaron ou Moshe, les descendants de Aaron et de Moshe. Et le pasuk dit, Et les Shemot bnei Aaron, voilà les noms des fils d'Aaron, le Bechor, c'est Nadav, Aviou, Elazar et Itamar. Voilà. Et ensuite, on décrit le nombre de personnes qu'il y a et le fait que Nadav et Aviou sont morts. Et que c'est Elazar et Itamar qui ont pris leur place autour d'Aaron. Alors, si vous regardez ce verset, celles qui ont le verset, vous deviez poser une question, parce que le verset dit Ve'ele toldot Aaron ou Moshe, et ensuite, on a dit les fils d'Aaron et on ne parle pas des fils d'Aaron, de Moshe. Mais Les fils d'Aaron sont présentés comme les toldotes de Moshe. Donc de là, on apprend que puisque c'est Moshe qui leur a enseigné la Torah, les fils d'Aaron, ils ont deux pères. Ils ont leur père biologique, et qui est aussi celui qui leur a enseigné, etc., qui est Aaron, mais ils sont aussi considérés comme les enfants de Moshe, et eux sont mentionnés alors que les enfants biologiques, si on peut parler comme ça, de Moshe, ne sont même pas mentionnés dans la Torah ici. Là. Non, sûrement qu'il a enseigné à tout le monde, donc il a enseigné à ses enfants aussi. Mais bon, y a une question, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement on ne mentionne pas les enfants de Moshe? On devient un père, même si on n'est pas biologique quand on enseigne à des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas père quand on est même si Moshe n'avait pas enseigné à ses enfants, il serait quand même leur père. Il devrait être mentionné là.
Ah,
Quoi, qu'il n'a pas de fils?
non,
Alors en fait, les enfants de Moshe vont être cités plus loin. Parce qu'ici, on parle d'Aaron, on parle des Kohanim. Les Lévi'im, ils vont être cités un peu plus loin. Il y a un passouk, Kavzaïn. Il va y avoir la liste des membres de la tribu de Lévi. Le code d'Ebné Lévi, ça c'est le verset 15 de ce fameux chapitre Guimel. Et donc, tu vas les compter. Eux, ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas comptés avec les mêmes critères d'âge. Les autres sont comptés en tant que soldats, si on peut parler comme ça. Et eux, ils sont comptés différemment en fonction du travail qu'ils doivent faire. Et on énonce, voilà, le Bayou Ele Bne Levi, Bishmotam, Gershon, Kehat et Mravi. Et puis ensuite, on dit, alors, Ibn Gershon, alors, ici, on va mentionner un peu plus bas, où les quatre, Mishpachat Amrami, c'est Amram, Mishpachat Mishpachat Zieli, ça c'est les différentes familles qui composent les descendants de Kehat. Et donc dans ces descendants de Lévi, il y aura aussi les enfants de Moshe Rabbeinu qui vont être inclus. On reviendra là-dessus. Mais maintenant, il y a quelque chose de. Il y a énormément de choses, énormément, on a dit, de bouleversements d'organisation dans ce Sefer Bamidbar. Et ça commence tout de suite dans la première paracha. Pourquoi? Parce que on a fait le compte et Hachem dit au. Après avoir dit à Moshe, à Krevet Maté Lévi, rapproche la tribu de Lévi, ils vont être d'une certaine manière les assistants des Kohanim, qui étaient cités en premier. Et ensuite, au verset 11, Hachem parle à Moshe, il dit voilà. Non, voici, voilà. Vaani, il est la carti et alvim, mitor bnei Israël, tachat kol bechor, peter rechem ibnei Israël, vaiuli alvim. Alors, Hachem dit, il annonce à Moshe, voilà, j'ai pris les levim parmi les bnei Israël. Pourquoi il les a pris? Parce que, en fait, il faut lire le verset Yud Gimel, 13, Kili kol bechor beyom akoti kol bechor beretz Mitzrayim, ikdash kili kol bechor beIsrael, me Adam ad behema, li hiyu ani Hashem. Alors, Hashem dit il dit à Moshe Rabbeinu, en fait, tous les premiers-nés m'appartiennent. Ils sont à moi, les premiers-nés. Pourquoi ils sont à moi? À cause de ce que j'ai fait en Égypte. Quand les bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis à la suite de Makat Bechorot. Et les bnei Israël, parmi les bnei Israël, les Bechorot étaient eux aussi en danger. Ils ont été sauvés par Hachem. Et donc, en les sauvant, il les a acquis en quelque sorte. Je vous ai préservé de la mort et je vous ai acquis. Il a acquis les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a acquis les premiers-nés? Ça veut dire qu'a priori, les premiers-nés sont au service d'Hachem. Ça correspond au fait qui est même antérieur en réalité à ce qui s'est passé en Égypte, parce que, comme vous savez toutes, Esav était premier-né, et c'est lui qui aurait dû faire la avoda. Donc ça, c'est pas lié à Makat Bechorot. Donc il y avait déjà, si vous voulez, un rôle particulier au Chorot. D'après ce qu'on a expliqué pour expliquer que le mot Bechor était écrit avec des lettres qui valaient toutes deux, Bet, Kaf, Resh, c'est deux dans les unités, les dizaines et les centaines. Et on avait dit donc que c'est un peu paradoxal que le mot Bechor s'écrive 222, quoi. Quelque part, on l'aurait écrit 111, ça allait mieux. Mais là, on l'écrit 222 et on avait expliqué que c'est parce que le Bechor, il est un deuxième père dans la mesure où il relaie l'enseignement du père dans la nouvelle génération. Il est pour ses frères et sœurs, viennent donc après lui, il est celui qui va leur enseigner ce que leur père leur enseigne en prenant soin de le dire dans un langage qui est audible pour la nouvelle génération. En soi, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'enseignement. C'est-à-dire que quand une génération veut enseigner à l'autre, d'une certaine manière, la nouvelle génération, elle n'entend pas, elle ne comprend pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'entendent pas les nuances particulières qu'il y a, même si on utilise les mêmes mots, dans le langage du père. Et celui qui est capable d'entendre ces nuances et de les transcrire dans le langage de la nouvelle génération, c'est le Bokor. Et ensuite, Hachem a dit, les prorobes, je les ai acquis, encore plus fortement, si on peut parler comme ça, ils m'appartiennent. OK, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Levim? Le problème, c'est que les prorobes sont au service d'Hachem, c'est eux qui font la avoda. Bon, il y a une halakha qu'un Kohen qui a pratiqué volontairement ou involontairement l'idolâtrie, même s'il y a été contraint à nous, on lui a mis un pistolet sur la tempe et on lui a dit, bon, alors normalement, il y a une mitzvah qui touche Hachem, mais s'il a transgressé, il n'a pas transgressé comme quelqu'un qui aurait pratiqué l'idolâtrie volontairement. Alors, un Cohen qui a pratiqué l'idolâtrie, il n'est pas saoul pour faire la avoda au Beth Amikdash ou au Mishkan. Donc, les prorotes, ce sont, lorsqu'ils ont pratiqué le vaudor, ils se sont disqualifiés, ils ne pouvaient plus être les Kohanim, ils ne pouvaient plus être les prêtres, ceux qui allaient faire le travail au Mishkan. Est-ce que, ça il faut réfléchir, est-ce que ça veut dire que ils ne peuvent plus non plus vraiment enseigner la Torah, puisque on a dit que la fonction essentielle, c'est pas celle de le travail qu'il y a au Beth Amikdash, au Mishkan, mais c'est l'étude et l'enseignement. Étudier, ils peuvent étudier, mais ils se sont aussi disqualifiés pour être des enseignants? J'ai jamais entendu ça. Ils sont disqualifiés pour faire la avoda, mais par exemple, ils vont manger de la trouma. Donc, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont plus kohanim. Ils sont pas devant au Misbéach, quoi. Et par conséquent, il n'y a plus personne pour faire la avoda. C'était la spécialité des Bechorot. Eux sont disqualifiés. Alors, c'est ce qu'Hachem dit ici. J'ai pris les Levim parmi les Bnei Israël. J'ai fait main basse sur les Levim et je les ai pris en remplacement pour remplacer les Prorot. Alors, on pourrait dire, bon ben, il a pris tous les Levim qu'il y avait et c'est ça, voilà, c'est ça l'équipe. Des gens qui vont travailler au... et c'est très bien, c'est tout, terminé. C'est plus les prorotes, c'est eux. Seulement, il y a un problème, c'est qu'Hachem, visiblement, il ne voulait pas diminuer le nombre de personnes qui faisaient la avoda. Et donc, normalement, on aurait dû prendre un nombre de levim égal au nombre de prorotes. Le problème, c'est il n'y avait pas assez de levim. Donc, il y avait plus de prorotes que de levim. Donc, c'est ce qu'Hachem dit à Moshe, compte les levim. Les dénombre comme c'était nécessaire, comme c'était ordonné. Donc, il y a la liste ici. Comme pour tous les autres. Et une fois qu'ils les ont comptés, on a fait un total 22 000. OK, il y a donc 22 000 levim. C'est intéressant, 22 000, ouais. 22 000, c'est un chiffre dont on a déjà parlé. Parce que 22 000, c'est 2 myriades et 2 milliers. C'est ce qu'il y a dans le passouk, le fameux passouk qui a lui tout seul, enfin, fait la moitié d'un séfer. Bon, c'est ce que nous disons quand au moment de la lecture du séfer Torah. Alors, on dit, C'est un petit texte singulier dans sa présentation dans la Torah, et dans lequel on dit que les Bnei Israël, ils sont Rivevot Alfei Israël. Rivevot, c'est Revava, c'est une myriade. Une myriade, c'est 10 000. Rivevot, c'est un pluriel. Le minimum des pluriels, comme toujours, c'est 2. Donc, c'est 2 fois 10 000. Non, je ne vous cacherai pas, ça fait 20 000. Et ensuite, Rivevot, Alfei. Elef, c'est 1 000. Alfei, c'est un pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. 2 fois 1 000, là aussi, ça fait 2 000. Et donc, 20 000 plus 2 000, ça fait 22 000. Par ailleurs, on dit qu'effectivement, 22 000, c'est le minimum du clan Israël. Mais 22, par ailleurs, c'est aussi quelque chose de très connu. Qu'est-ce que c'est 22? Nous? C'est? Oui, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet. Bon. Tu verras, tu passeras à la classe supérieure. Alors, et donc, il y a 22 000 levim. Alors, combien il y a de bechorot? Alors, Hachem lui dit, compte les bechorot. Et le problème, c'est que les prorotes, ils sont 22 273. Donc, il y a 273 bechorot en trop. Et donc, il n'y a pas de levim pour prendre en charge le travail que faisaient ces 273 bechorot. Alors, Hachem a dit à mon cher Rabbeinu, tu vas prendre des levim à la place de chacun des premiers-nés. Tu vas prendre le bétail des levim à la place de leur bétail, et les lévites seront à moi, je suis Hachem. Donc, ce qu'Hachem avait dit sur les proroth, c'est maintenant dit sur les levim. Et alors, il va falloir racheter les 273 premiers-nés. Donc, tu prendras 5 shekels par tête, shekel à Kodesh. Alors, combien c'est un shekel? C'est 20 guéras. Bon, il faut bien dire, un shekel, c'est une certaine monnaie, c'est-à-dire c'est un certain poids d'argent. Et quel volume d'argent est-ce qu'on a? C'est 20 guéras. Guéras, c'est des graines. Donc, on va prendre 20 graines. Le volume de ces 20 graines, on va le prendre en argent. Et ça fera un shekel. Et donc, on prendra 5 shekels. 5 shekels c'est-à-dire, tu donneras cet argent, ces 5 shekels, à Aaron à ses fils, en tant que rachat pour ceux qui leur sont en excédent. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore, c'est-à-dire que quand un premier-né naît, alors normalement, il devrait être Kohen, il devrait être Lévi, quoi. Lévi ou Kohen. Et il ne l'est pas. Donc il faut racheter. Et le rachat, c'est 5 shekels. Donc, le père, quand l'enfant est mineur, c'est une obligation, c'est une mitzvah du père de racheter son enfant au Kohen. Et l'enfant lui dit, est-ce que, donc, il m'appartient maintenant, puisque je suis Kohen ou Lévi, quoi. Et normalement, cet enfant-là, il devrait travailler comme, il devrait être Lévi, quoi. Il devrait fonctionner comme serviteur d'Hachem. il va pas le faire. On va demander au père, mère, on va demander au père de racheter cet enfant. Il va donner 5 shekels au Cohen, qui lui le redonnera l'enfant. Donc c'est comme ça que c'est réglé. On a réglé le problème avec une notion qui s'appelle pidyon, une notion de rachat. Voilà, c'est ça. La mitzvah de après ça, c'est ici, c'est marqué que à cause de ça, effectivement, on va racheter. Alors bien sûr, au tout début, c'est les Bechorot qui ont dû payer. Et pour que ça soit juste, on a fait un tirage au sort. C'est-à-dire, chaque Bechor a tiré au sort dans les 22 000, dans les 22 000 Lévi'im. Et celui qui avait un ticket sur lequel c'était marqué Lévi, enfin, alors il avait, voilà, il n'avait pas besoin de se racheter. Celui qui avait un ticket sur lequel ce n'était pas marqué Lévi, ça voulait dire qu'il va falloir, il fallait qu'il se rachète. Alors, ce qui est écrit dans la Torah ici, ce n'est pas encore la mitzvah pour nous. Ce qui est écrit, c'est que les prorotes ont dû se racheter. Ce n'est pas parce que vous êtes disqualifié, vous ne devez pas vous racheter. Au contraire. Vous parlez plus fort, madame.
Le Mizmor Samechet, qui est le Mizmor de Shavuot, qui parle de Madame Torah, au verset 8, 18, c'est marqué Rechevelotiv, Ribotaïm, Sinaï, Bakodesh. C'est-à-dire que le chariot d'Hachem, Ribotaïm, c'est 22 fois 10 000, Alfei Shinan, et il y a
2000.
2 000 Shinan. C'est des anges. Et Hachem va, Hachem est parmi eux, Sinaï va
Donc,
connaître.
à Matan Torah, on récupère ça aussi.
Et Hachem est venu avec moi. Voilà.
Bon, voilà donc, c'est ici quelque chose de fondamental, puisque ça nous explique le rôle des Lévi'im qui prennent en charge le rôle qu'auraient dû assumer les prorotes qui se sont malheureusement disqualifiés. Vous voyez que bon, c'est deux façons complètement différentes de voir les choses, parce que quand c'était les prorotes qui faisaient la avoda, alors ça voulait dire que tout le clan Israël était impliqué dans la avoda. Parce que si c'est pas X qui lui, il n'a pas de bechor, il n'a pas de premier-né garçon, mais son frère ou son cousin ou son oncle, ou bien ses propres enfants par la suite vont avoir. Donc, toutes les familles avaient des kohanim dans le. Ils avaient des gens qui faisaient le travail. Donc, c'était beaucoup mieux que ce qui s'est, si on peut parler comme ça, parce que maintenant, c'est devenu une espèce de caste des kohanim et des levim. Bon, c'est des gens qui, finalement, ils ont développé une. On dit que dans la Gemara, c'est marqué qu'ils sont quasiment un état dans l'état. Par exemple, les filles des familles des Kohanim, elles n'acceptaient pas de. Dans Kiddushin, il suffit qu'on donne à une femme une prouta. Si elle accepte la prouta, elle est mekoudechet. Mesdemoiselles, les filles des Kohanim, il fallait un dinar. Bon, ça veut dire, non, nous, on ne marche pas avec une prouta. Donc ça a développé une assez mauvaise chose aussi parce que il y avait aussi des Kohanim et des Levim qui avaient une tête qui plaisait aux gens, donc eux ils devenaient très riches parce que c'est à eux qu'on donnait toutes les choses qu'on était obligé de donner aux Kohanim. Mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas une tête qui revenait à tout le monde et qui eux n'avaient pas, tandis que si c'était dans toutes les familles, ben, les familles auraient donné à manger aux gens de leur famille, donc ça aurait été réglé. J'ai entendu, je n'ai pas vu, qu'à la fin des temps reviendra la solution de Chorot. Moi, personnellement, je suis pour. Je dirais qu'on m'a rien demandé mon avis, mais je suis pour. Pardon? Oui. Alors, pour terminer, on avait dit que le un des noms de ce Sefer, c'est Chumash HaPkudim. Alors quand par exemple Hachem dit à Moshe, le code Kol Bechor Zachar Livnei Israël mi ben Chodesh Vamala, ça et Mispar Shmotam, c'est Pekod. Pekod, ça veut dire se souvenir. Dans Yalev Yavo, d'accord, on parle aussi de la Pekida, et on dit bah, dans les psukim, on dit aussi Hachem Pakad et Sarah, il s'est souvenu de Sarah et il a fait en sorte qu'elle puisse avoir un enfant, etc. Il y a une notion de souvenir, mais de donner à chacun son rôle. En hébreu moderne, un pakid, c'est un employé. Le code, ça veut dire donne la fonction. Donc ici, ça veut dire souviens-toi, mais souviens-t'en. Parce qu'ils ont une fonction particulière, et là, là c'est les prorotes, et les prorotes, ils avaient cette fonction, mais ils ne pouvaient pas l'assumer parce qu'ils s'étaient disqualifiés, et donc, c'est à partir de ce dénombrement-là spécifique des prorotes qu'on a défini cette histoire des cinq shkalim. Alors, on pourrait dire que, voilà. C'est venu se greffer sur la mitzvah de Prorot, Hachem les a acquis. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a la mitzvah de rachat des premiers-nés. Mais bon, ça vient se greffer là-dessus, quoi. Alors, finalement, la paracha, elle termine sur où justement, Pekudat Elazar ben Aaron à Cohen, la fonction d'Elazar ben Aaron, le Cohen. Elazar, c'est le troisième fils d'Aaron, c'est lui qui fonctionne et qui va être d'ailleurs le successeur d'Aaron. Et sa fonction, c'est Shemen HaMaor, Uktoret HaSamim, ou Minchat HaTamid, Shemen HaMishra. Et donc, il doit s'occuper de l'huile pour la menorah, du Ktoret, du Korban Tamid, la Mincha du Tamid. Et le shemen amishra, c'est-à-dire l'huile avec laquelle on va oindre, ça va être les rois et les kohanim aussi. Et puis il va prendre soin de tout le mishkan. Et alors, dans les tâches qui sont données à chacun, la sous-tribu des descendants de Kahat, Ils avaient pour fonction, lorsque les Bnei Israël se transportent, voyageaient, quand ils passaient, ils allaient d'une station à l'autre, il fallait, on démontait le Mishkan et on le transportait démonté, on le remontait là où on allait camper la nouvelle place. Et le problème, c'est qu'il fallait démonter aussi le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, quand tu le démontes, comprenez, regardez, quand on pense Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Et quand tu le démontes, qu'est-ce que c'est le Kodesh HaKodashim? C'est un peu des krachim et des tentes. Et puis dedans, il y a le Aron HaKodesh. Mais l'Aron HaKodesh, c'est une boîte. Avec un beau couvercle, mais c'est une boîte. Alors si on le démonte, si vous voulez, il perd de son aura, il perd de sa splendeur. Et donc personne n'avait le droit de le voir démonter. Mais il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Alors on a dit, c'est les Kohanim. Les Kohanim vont faire le travail du démontage. Et ils vont emballer. Et quand ça sera bien emballé, ils vont donner à chacun ce qu'il devait transporter. Donc la tribu de Kehat va transporter le Kodesh HaKodashim sans du tout avoir jamais vu les éléments constitutifs du Kodesh HaKodashim, que seuls les Kohanim ont vu, mais ensuite ils les ont enveloppés et transportés les choses fermées, les gens de Kehat. Et on dit, il faut faire très attention que les gens de Kehat, ils ne voient rien. Parce que s'ils étaient amenés à voir, ils allaient en mourir. Donc, Hachem dit à Moshe Aaron, veillez à ce que ils ne voient rien du tout. Sinon, ils vont mourir. Donc, il faut prendre des mesures. Et les mesures, c'est que les Kohanim, Aaron, en l'occurrence, les Kohanim, à ce moment-là, c'était Aaron et ses fils. Il n'y avait pas encore la grande foule, hein. Aaron et ses fils et ses descendants doivent faire très attention de très bien emballer avant que les gens de Kehat prennent livraison, en quelque sorte, de ce qu'ils vont transporter jusqu'à la station prochaine. Et ensuite, il va déballer de nouveau, les Bnei Aaron vont déballer et on va remettre les choses en place de telle sorte que le Kodesh HaKodashim soit fermé. Bon, avec le rideau qui le sépare, Fritza, ou le rideau qui le sépare du Kodesh, du Saint, du reste du Mishkan, si vous voulez. Voilà. On a commencé donc de se faire de Bamidbar. Vous voyez, c'est énormément de choses très importantes sur la structure du clan Israël. Au moment où il va commencer à bouger réellement. Et on est, si on peut parler comme ça, revenu en arrière, c'est-à-dire on est parti, on est du deuxième mois de la deuxième année. On est du mois d'Iyar. On est le mois qui suit la construction du Mishkan. Donc, vous voyez comment c'est, les Bnei Israël ont reçu la Torah, Shavuot, et Moshe Rabbeinu est monté 40 jours. Pendant ce temps-là, les Bnei Israël ont fait le veau d'or. On va jusqu'à Kippour pour qu'Hachem pardonne et redonne les deuxièmes tables. Et Kippour, c'est au mois de Tishri. Et on a commencé une nouvelle année en Tishri. Donc on est déjà dans la deuxième année en quelque sorte. Et on va aller jusqu'à Nissan. En Nissan, on va ériger le Mishkan, qu'on a commencé à construire à Sukkot, tout de suite après Yom Kippour. Et il était fini, le Mishkan était terminé à Hanouka. Mais Hachem a voulu qu'on attende jusqu'au premier Nissan pour l'ériger. Donc on a attendu. Et un mois plus tard, on nous parle de ça. Un mois plus tard, voilà, le Sefer Bamidbar commence un mois plus tard. Donc vous voyez, c'est quasiment le lendemain de la sortie d'Égypte.
Ouais.
OK.